Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour et bienvenue dans le réveil culturel. Corinne Amar à la coordination, Vincent Abouchard à la réalisation. Et ce matin, c'est Claire Levasseur qui est avec nous pour la prise de son. Et tous les vendredis, vous le savez, dans le réveil culturel, c'est l'actualité de la bande dessinée, des mangas et des comics. Et aujourd'hui, deux bandes dessinées de science-fiction et dans un sous-genre qui est en train de devenir un genre à part entière. C'est le récit post-apocalypse, post-apo, pour reprendre la terminologie utilisée par les dessinateurs. Alors, deux bandes dessinées, d'abord Mécanique Céleste de Merwan, édité chez Dargaud. Et dans cette bande dessinée, nous sommes en 2068, c'est-à-dire dans un futur post-catastrophe nucléaire où pour survivre et inventer une nouvelle vie, un nouveau monde, il faut jouer à un drôle de jeu. De son côté, Hugo Bienvenue raconte dans Préférence Système, édité par De Noël Graphique, un monde saturé de données. Là, avec lui, nous sommes en 2055. Le data de l'humanité est devenu si volumineux qu'un système autoritaire est mis en place pour commencer à supprimer des données. Hugo Bienvenue et Merwan sont mes invités aujourd'hui et également présente dans le réveil culturel Sonia Deschamps du magazine Casemate qui nous dira qu'il y a d'autres bandes dessinées de science-fiction à lire.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Bonjour Merwan.
Bonjour Toufik.
Bonjour Hugo.
Bonjour Toufik.
Bienvenue. Alors, on va commencer par 2055 ou 2068. Allez, 2068. Commençons par vous, Merwan. Commençons par Mécanique Céleste. Ça y est, la catastrophe a eu lieu.
Alors, ce qu'on nous promettait, ce qu'on nous promet depuis un certain temps maintenant a eu lieu. Voilà, il n'y a pas de problème. Certains ont survécu. Et ça va être l'occasion pour moi de passer outre la catastrophe tout en faisant un décor pour l'histoire, parce que on se balade à travers les ruines, à travers une hygrométrie assez élevée, une température aussi élevée, voilà. Et étonnamment, on se rend compte que qu'il y a des survivants et que c'est plus trop leur problème. La grande question, ça va être de réunir les différents clans, les différentes sociétés qui se sont formées. C'est le nœud de mon histoire.
C'est-à-dire comment reconstruire le monde ou inventer un nouveau monde?
Les nouveaux mondes s'inventent et maintenant ils vont se rencontrer à nouveau. Et en guise de rencontre, ils vont gérer leurs problèmes grâce à un rituel qui s'appelle la mécanique céleste. La mécanique céleste, c'était donc le calcul des trajectoires des planètes. Là, on est dans les sphères, on est dans les trajectoires, mais ça s'apparente plus à un sport de ballon.
Comme un jeu.
Comme un jeu pour enfants, qui m'a fait vibrer quand j'étais petit, qui a fait vibrer beaucoup, et là, qui va faire vibrer ce qui essaye de se reformer en tant que nation.
Quelle est l'idée de départ de Mécanique Céleste, Merwan?
C'est de lutter contre l'angoisse de la promesse de la fin du monde.
De plus en plus présente, de plus en plus stressante, on peut le dire.
Ouais, dans les discours surtout, parce que quand je regarde ma fille, je la vois pas très angoissée par cette histoire. Et je me suis dit qu'à un moment donné, il était temps de redevenir aussi enfant pour lutter contre l'angoisse. Ça n'empêche pas de faire le mieux qu'on peut, le mieux qu'on puisse pour notre planète, hein. Mais j'estimais à un moment donné que c'est pas avec la peur et l'angoisse qu'on allait faire le mieux. Et donc, c'est en prenant le cadre de deux jeunes gens de 17 ans qui sont en plein émoi, au mieux de leur énergie, que j'ai eu envie de situer cet univers de reconstruction, justement, pour mettre d'abord la vie avant l'angoisse.
Est-ce que c'est documenté? Est-ce que vous avez lu des livres, des comptes rendus, des analyses de scientifiques avant de vous lancer dans cette aventure où ce n'est que le fruit de votre imaginaire, Merwan?
Justement, ce que j'ai lu, regardé et analysé, c'était donc tous les comptes rendus qui nous amènent à l'impasse. Voilà, comme moi, au bout d'un moment, l'impasse, ça me satisfait pas, hein, pour créer des dynamiques vers le futur. J'en suis sorti justement avec ce qui semble improbable. Voilà, et ce qui semble improbable, c'est l'histoire que je raconte dans Mécanique Céleste. Et étonnamment, elle m'a rempli de joie. Et voilà, je me rends compte que le lecteur, ça lui plaît aussi. Donc quelque part, ça recrée quelques dynamiques plaisantes. C'est-à-dire qu'après la catastrophe, on aura de la vie et ça continuera. J'ai même pas le sentiment d'être optimiste, j'ai le sentiment d'être joyeux.
Et pourtant, en sous-texte, quand on lit Mécanique Céleste, on se rend compte que l'explosion, que la catastrophe va avoir lieu dans un lieu qui est pour nous symbolique de la nature, des plantes. Pourquoi vous l'avez situé dans la forêt de Rambouillet
de Fontainebleau. Déjà parce que j'adore cette forêt, parce que c'est un lieu de détente, puisque j'ai beaucoup d'amis qui vivent là-bas, donc c'était une sorte de coupure avec le monde. C'est aussi la forêt, c'est une forêt primaire, hein, qui a des centaines de milliers d'années, ça, elle a pas bougé. Hein. Et puis il y a tout, si vous voulez, il y a l'eau, donc quand il y a des crues, ça déborde. Pas loin, on a aussi des centrales, hein, les centrales de Nogent, donc on se dit si ça pète, ça risque d'arriver dans la forêt aussi. On a aussi un univers à Avon, de banlieue, de cité, dans lequel on reconstruit donc toutes les rizières. Pour moi, on avait un maelstrom d'éléments qui m'allaient vraiment très bien jusqu'au château, hein, à qui je mets les pieds dans l'eau et que je recouvre de plantes grimpantes. C'était un lieu qui me plaisait.
Comment vous avez choisi l'année 2068, Merwan?
C'est vraiment un petit clin d'œil à 68, parce que il y a quand même des événements, je veux dire, la cité qui semble dominante dans l'histoire de mécanique céleste, finalement, ne l'est pas tant que ça. Et c'est toujours ce que je trouve intéressant dans les crises, c'est que s'il y a une crise, c'est que la puissance ne tient plus vraiment sa place aussi facilement qu'il y paraît. Et donc, on a quand même l'envie que cette puissance tombe et soit vaincue, parce qu'on a l'impression qu'elle est exclusivement oppressive. Il n'empêche qu'elle est en crise, la puissance est en crise. Donc c'était l'idée, c'était d'avoir un clin d'œil, un petit rebond par rapport à ça, même si nous, on est dégoûté de ce qu'on appellerait les opprimés.
Et là, on passe à 2055 avec vous, Hugo. Bienvenue, Préférence Système, édité par De Noël. Pourquoi 2055 déjà?
C'était pour un futur assez proche, parce que c'était des problématiques que je voyais arriver assez vite, et je me disais 2055, il y a une urgence aussi, ça fait qu'on est concerné plus rapidement par les problèmes que j'aborde, et enfin voilà, c'était pour dire le mur avance vers nous, quoi.
Alors qu'est-ce qui se passe dans votre histoire?
Bah, on arrive à un
dans
moment
préférence
donné,
système, ouais.
De l'histoire où le contenant, y a la production de contenant, on peut pas suivre la production de contenu, et donc on est obligé de supprimer des données, des archives pour pouvoir continuer de produire des vidéos YouTube, des datas, et se pose la question de est-ce qu'une data vaut œuvre, est-ce qu'une donnée vaut autre chose, quoi. Enfin, qu'est-ce qu'on décide de supprimer? C'est quelque chose qu'on a tous fait sur notre ordinateur, supprimer la photo de famille.
Quand il arrive à saturation, effectivement, on se pose toujours cette question, que pour son téléphone ou pour son ordinateur, vous l'imaginez pour le monde entier, pour tout notre système.
Ouais, parce que je me dis, le mètre linéaire d'archives physiques, en fait, est en train de péricliter, parce qu'on n'a pas les états, et les entreprises n'ont pas les moyens de continuer de les préserver. Et donc, la dernière archive qui va rester, c'est l'archive numérique, mais c'est une archive encore plus fragile que l'archive physique. Donc, qu'est-ce qu'on va sélectionner? Est-ce que le beau peut résister dans des arbitrages, comme ça, quoi.
Voilà. Vous êtes vraiment imprégné du présent, hein, parce que quand on lit Préférence Système, Hugo, bienvenue, on se rend compte tout de suite que la culture, le culturel, le patrimoine culturel va être tout de suite considéré comme pas très vital, pas très important, donc qu'on peut l'effacer et s'en débarrasser. On a vraiment l'impression que toutes ces discussions autour du budget alloué à la culture qui n'arrête pas de baisser, qui vous inspirait cette histoire?
Bah, il y a quand même, on est dans un système darwiniste. C'est le nombre qui l'emporte toujours et l'efficacité qui l'emporte toujours sur le reste. Et donc, à un moment donné, si quelque chose n'est pas consulté, ben, il est considéré comme négligeable, et donc il est supprimé de la mémoire. Et est-ce que le beau est négligeable? Et qu'est-ce qu'on va avoir à transmettre quand on aura supprimé tous les avertissements qu'on a fait par écrit, quand on a essayé de saisir le monde, quoi?
Alors dans ce monde, on sauve quand même Victor Hugo, hein, c'est bien, mais on est prêt à sacrifier un chef-d'œuvre de Stanley Kubrick, par exemple.
Ouais, alors là, je m'amuse aussi, parce que moi, je sais pas si je sauvegardais Victor Hugo plutôt que 2001 l'Odyssée de l'espace, et justement, ça pose la question de qu'est-ce que nous on sauvegarderait, et est-ce que où trouvons-nous le beau? Et en fait, chacun trouve le beau à des endroits différents. Et mon personnage choisit ça, mais j'ai un autre personnage dans le livre qui décide de préserver des données politiques. Et donc, ils sont pas en accord, mais en même temps, tous les deux, ils ont un acte de révolution de sauvegarder. Et donc, c'est là où ils tombent d'accord. C'est il faut garder notre mémoire, en tout cas le maximum possible, parce que c'est notre rôle en tant que maillon de l'espèce de transmettre à la prochaine génération pour construire l'humanité, en fait. Et on peut pas construire une humanité sur un vide. Et voilà.
Voilà. Quand vous parlez des personnages de votre bande dessinée Préférence Système, Hugo, bienvenue, il faut tout de suite préciser que il y a des hommes, il y a des femmes, mais il y a aussi des robots qui sont considérés comme des personnages enfin intégrés à la vie de tous les jours.
Oui, alors c'est des personnages fonctionnels qui ont des actes dirigés que par des stimuli extérieurs. C'est pas eux qui prennent aucune décision. C'est des liens entre des choses qui font qu'ils sont programmés pour ça, quoi. Et l'idée, c'était que lui, malgré lui, il détient une partie de la mémoire de l'humanité et que, en plus, il contient une petite fille. Et ouais. Que donc, qu'est-ce qui va.
Parce que la PMA maintenant se fait avec les robots. Enfin, maintenant, en 2055.
En 2055, quoi.
Dans votre imaginaire, bien sûr, Hugo, bienvenue.
Et donc, il va être le double détenteur et il va pouvoir transmettre. Et ça m'intéressait dans un monde où c'est de plus en plus compliqué de transmettre des choses à des enfants, que ce soit un robot qui le fasse, je trouvais ça intéressant. Et aussi cette idée de casser un peu le système. D'habitude, les robots, c'est les ennemis de l'humanité. Là, je me disais, ça pourrait être intéressant que les robots nous redonnent un accès à nous-mêmes, redonnent un accès à notre humanité.
Hugo, bienvenue pour Préférence Système et la mécanique céleste de Merwan avec nous, nos invités dans le Réveil culturel spécial post-apo.
I need you more than you do. You know I need you more than you do. I can't give you what you are looking for. You must know I don't exist anymore. I need you more than you.
Bienvenue dans le monde de demain, bienvenue dans le monde post-apo, comme on dit, avec Merwan et Hugo, bienvenue pour leur bande dessinée, Merwan, Mécanique Céleste, et Hugo, bienvenue, Préférence Système. Vous avez plus d'un point en commun, ne serait-ce que parce que vous avez fait les mêmes écoles, ou en tout cas la même formation, vous avez fait de l'animation, et vous êtes deux auteurs de bande dessinée. Et là, vraiment, vos thèmes se recoupent, se complètent, n'est-ce pas, Merwan? Vous qui avez lu le Préférence Système de Hugo, bienvenue.
Oui, alors c'est vrai que je l'ai lu et donc j'ai pris énormément de plaisir, mais c'est en écoutant parler Hugo à l'instant là que je me disais que c'était drôle, qu'on avait presque des trajectoires qui se croisaient, puisque dans l'univers de Hugo, on a des personnages qui se battent pour ne pas laisser la mémoire s'envoler, c'est des espèces de gardiens. Et moi, la catastrophe a eu lieu et on est presque dans un monde amnésique, qui ne sait plus d'où il vient, qui ignore le fait qu'il a des voisins, on a des nouveaux syncrétismes. C'est comme si, c'est comme si en 2055, le combat allait être perdu, puis qu'on passait à la mécanique céleste. Et c'est
2068, voilà. La mécanique céleste.
Ouais, hein. C'est ça, c'est marrant, c'est vraiment très drôle. On sent qu'il y a une tension pour chez Hugo pour que les choses et c'est magnifique. Je veux dire, quand on entend les poèmes dans cet univers froid et mécanique, je veux dire, c'est vrai que l'humanité passe par le verbe à ce moment-là quand on lit le livre de Hugo. Et moi, on est sur une autre énergie qui a définitivement oublié d'où elle venait. Et on repart sur autre chose, ça se croise, je trouve que ça se croise.
Vous avez décidé d'utiliser des couleurs vraiment flashy, pop, pour raconter votre histoire Préférence Système. Hugo, bienvenue, pourquoi ?
Parce que déjà je trouve que ça attire, enfin je trouve que c'est, ça rend le truc plus sexy quoi. Et puis parce que aussi, je pense qu'on est d'accord là-dessus, ce que tu disais tout à l'heure sur le futur désirable. Moi j'ai pas envie de faire un futur vers lequel on n'a pas envie d'aller. J'ai envie de dire venez, ça va être subtil un futur, ça va être plein de nuances, ça va être plein de choses belles comme nous aujourd'hui. C'est plein de choses belles, notre quotidien est fait de plein de choses belles et aussi de choses terribles. Et j'essaye de construire un futur comme ça où les deux vont ensemble, avancent ensemble et où il y a quand même, on va dire, des possibles moments de beauté. Et la couleur flashy comme ça me plaît et je trouve que c'est, enfin, ça participe d'une forme de beauté.
Vous êtes jeune, Hugo, bienvenue, mais c'est votre troisième bande dessinée préférence système. Mais en fait, quand on ne parle que du présent, quand on fait des récits de qui se déroulent dans un futur post-apocalyptique ou pas.
Moi, c'est ce dont j'ai l'impression, c'est que le futur nous permet de faire des métaphores et de condenser des choses dans des toutes petites phrases, dans des tout petits objets, mais qui résonnent beaucoup. Et la science-fiction nous permet de philosopher sur aujourd'hui et de prévoir demain, enfin, en tout cas, d'envisager demain et de le circonscrire aussi et de dire est-ce que c'est par là qu'on doit aller. J'ai l'impression que on travaille sur les mêmes.
Direz-vous la même chose, Mérouane, que le présent est très présent dans votre imaginaire d'auteur de science-fiction?
Ouais, c'est ça qui est le thème, les vrais thèmes philosophiques de la science-fiction, c'est est-ce que le futur existe, est-ce que le temps existe. À un moment donné, on se rend bien compte que pour vivre, hein, pour que la vie existe, il faut se mouvoir, hein, c'est vraiment le principe. Donc, pour se mouvoir, il faut envisager des actions. Pour envisager des actions, ça peut être mettre un pied devant l'autre, mais ça peut être aller vers un monde, hein. Donc, à partir du moment où on est incapable d'envisager les choses, où on est devant les phares d'une voiture face à l'avenir, pour moi, c'est le début de la fin, hein. Il y a plus de vie, on devient rocher. La science-fiction, c'est ça, c'est des pistes. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais peu importe. C'est comme quand on part en voyage. On peut aller là-bas, on peut aller ici, on peut changer de voie. La marche arrière n'est jamais très agréable en voyage. Hein. C'est pas trop quelque chose que j'apprécie, mais pour moi, il n'y a que du présent avec des dynamiques. Moi, quand je fais, même quand je fais Mécanique Céleste, c'est un peu, alors que j'adore, hein, c'est un peu l'anti-Mad Max. C'est-à-dire que peut-être qu'au moment où sort Mad Max, c'est important parce qu'on a l'impression que il est encore temps de faire demi-tour, on peut arrêter le pétrole, je sais pas. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que sortir un Mad Max aujourd'hui, c'est contre-productif. Aujourd'hui, pour moi, on a besoin de bonnes ondes, on a besoin d'énergie positive pour recréer des rêves. Voilà, pas de dire, voilà, c'est la cata, aujourd'hui, on est en train de se dire, c'est trop tard, de toute façon, c'est chaud, c'est fini, etc. Ok, une fois qu'on a fait ce bilan-là, qu'est-ce qui nous reste pour avancer? Si c'est que l'angoisse, ça ne m'intéresse pas. Moi, je t'entendais parler de pop. Moi, je trouve que je suis dans un genre pop post-apo. Voilà. Ouais. Ça peut paraître antinamique, hein. L'apocalypse, c'est pas gay. Mais je dis, allons-y, imaginons la gay.
Et vous, Hugo, bienvenue. Est-ce que vous êtes dans la pop post-apo?
Moi, la post-apo, c'est un genre que j'ai du mal à saisir parce que justement, je suis trop attaché à la vie et je pense que l'apocalypse va pas avoir lieu comme on l'a imaginé. Je pense que ça va être quelque chose de très lent et ce sera pas une détonation et puis après le vide ou quelques, voilà. Ben je pense que ça va être des épidémies.
La tour Eiffel tiendra toujours.
Ouais. Et voilà. Et donc, je me dis, en fait, ça va juste être une pente douce descendante et l'humanité va survivre. Je doute pas de la, mais qu'est-ce qui va survivre de l'humanité? Est-ce que, et justement, l'humanité va survivre, mais son humanité, est-ce qu'elle va résister? Et c'est le truc que, ouais, et vas-y, mais
ouais. Si je peux rajouter une superbe phrase dans le livre d'Hugo, c'est, si je la répète bien, chaque homme assiste à la fin d'un monde, dans sa vie, la sienne. Mmh. Et ça, je pense qu'il faut vraiment être conscient de ça.
Et en fait, c'est
le
déjà
monde est
la
en
fin
nous.
Du monde.
Donc, dès qu'on voit la fin du monde, on voit sa propre fin.
Mmh. Lecture de science-fiction très présente dans votre vie, Hugo?
Moi, j'aimais pas du tout la science-fiction à la base et j'ai découvert en faisant de la science-fiction parce qu'on m'a dit ah ça ressemble à ça. Du coup j'ai lu ce à quoi on me disait que je ressemblais et j'ai découvert Philip K. Dick, enfin tous les auteurs, mais en fait c'est comme des auteurs classiques quoi. C'est à partir du moment où on parle de l'humanité et des failles de l'humanité, ça m'intéresse. C'est pas parce que c'est le genre science-fiction, voilà. Mais Duras peut faire de la science-fiction sans s'en rendre compte des fois, enfin voilà, il y a des choses quand même, mais c'est parce qu'elle est précise et la précision c'est ce qui importe de toute manière.
Et enfin, comme je le précisais, tous les deux vous avez fait de l'animation. Pour vous, la bande dessinée, c'est d'aller plus vite pour raconter des histoires qui vous tiennent à cœur, ou c'est tout à fait autre chose?
Hugo,
pas,
bienvenue.
Ouais, moi je sais pas toi, mais moi la BD, ça me permet de faire un récit que je pourrais jamais faire en animation, en tout cas en termes de longueur, parce qu'en animation ça coûte tellement cher qu'on peut pas, si on veut raconter la même histoire, il nous faudra 1h30, et en fait 1h30 ça coûte très très cher à produire, il y a beaucoup d'acteurs, et du coup on peut pas être libre dans la création parce qu'il y a beaucoup d'acteurs financiers et tout ça. Et la BD permet, est un espace de liberté pour nous qui venons d'animation, je pense, et on a, je sais pas toi pourquoi t'es allé vers l'animation, mais moi c'était parce que j'avais l'impression que j'allais détenir les outils techniques qui allaient permettre de raconter des histoires, et vu qu'on a fait à peu près les mêmes.
Ouais, moi c'est vraiment par appétence directe. C'est vrai que mes 20 ans, c'était l'arrivée de Ghibli et de Miyazaki en France. Comme je parlais d'Akira, j'ai grandi avec le berger de Ramoneur.
Le roi et l'oiseau.
Le roi et l'oiseau. On a grandi avec tout ça. Nous, on est la génération Toei Animation, il faut le dire, du Club Dorothée. Voilà, ça fait partie de nous. Donc, quand 20 ans arrivent et qu'on découvre les outils pour faire de l'animation, je pense que c'est la même chose pour Hugo. En fait, c'est pas possible. Il faut juste une caméra et un ordinateur. Ben, moi, je suis tombé dedans. C'est jusqu'à une passion dévorante. C'était merveilleux. Maintenant, voilà, c'est un système. C'est aussi un art industriel. Il faut être nombreux. Il faut des sous. Il faut rentrer dans des systèmes de production assez lourds. Et la BD, c'est une récréation à côté de l'animation.
Référence système d'Hugo Bienvenue est publié chez De Noël Graphique et Mécanique Céleste de Merwan, c'est chez Dargo. Bonjour Sonia Deschamps.
Bonjour Tophique, bonjour à tous.
Bonne année à vous.
Bonne année à vous, bonne année
à
vous.
Je vous souhaite le meilleur pour 2020, entre autres choses, beaucoup d'albums post-apo.
Il devrait y en avoir pas mal, effectivement.
Parce que Préférence Système et Mécanique Céleste ne sont pas les deux seuls albums à recommander aujourd'hui, alors qu'on parle d'effondrement et de post-apo. Quel titre nous conseillez-vous de découvrir ?
Déjà, Soon de Thomas Cadden et Benjamin Adam, c'est publié chez Dargo. Alors nous sommes en 2151 et l'effondrement a eu lieu. La population mondiale a été divisée par 10 et l'humanité n'a eu d'autre choix que de se réorganiser. Les civilisations humaines ont été regroupées en 7 grandes villes. Aucune présence humaine n'est officiellement autorisée en dehors de ces grandes cités. La Terre a en quelque sorte été rendue à la nature. Et ce qui est particulièrement intéressant dans cet album, au-delà de l'univers qui est créé, au-delà de la façon dont les auteurs imaginent notre futur, ce qui est déjà en soi extrêmement réussi, mais c'est extrêmement réussi, extrêmement bien pensé, notamment toute cette question d'humanité, comment est-ce qu'on reconstruit quelque chose après l'effondrement. Et bien au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux niveaux de narration dans cet album. Il y a une partie presque pédagogique, documentaire, l'histoire de la Terre, depuis les origines jusqu'à ces années 2100, 2150, les tempêtes, la grande contamination. C'est une partie qui répond à la question comment est-ce qu'on en est arrivé là. Et il y a le récit, l'aventure au présent, là on suit Yuri et sa mère, Simone, qui participe au programme spatial Soon, qui donne son titre à l'album. Simone qui s'apprête donc à partir en mission dans l'espace, un aller qu'elle sait sans retour. Et ces deux dimensions, en fait, l'histoire et le présent de Yuri s'entremêlent dans Soon, portés par les magnifiques dessins de Benjamin Adam, des dessins qui ont quelque chose d'un petit peu hypnotique. C'est un album très riche, très dense, un album engagé aussi, à découvrir. Donc Soon de Thomas Cadden et Benjamin Adam, c'est publié chez Dargo. Et j'en profite au passage pour conseiller à tous ceux qui ne l'ont pas lu le très réussi Alt Life, scénarisé également par Thomas Cadden avec Joseph Falzon au dessin. C'est publié ça au Lombard.
Ça ressemble aussi à un film qui a eu un certain succès l'année dernière, le film de James Gray, Ad Astra. Bien sûr, ça, je parle de Soon de Thomas Cadden. Et puisque apparemment le monde après le chaos vous rend heureux, particulièrement heureuse, on continue.
Quand il est bien décrit, effectivement, le chaos peut être apporter un certain bonheur.
On continue. Un deuxième album, toujours dans cette sous-catégorie qui est en train de devenir une catégorie à part entière, le post-apo en bande dessinée.
Un deuxième album, ou plutôt trois albums, puisqu'il s'agit d'une trilogie Epiphania de Ludovic de Burm, c'est publié chez Casterman. Assez difficile à résumer cette trilogie parce qu'elle charrie beaucoup de choses. On retrouve d'ailleurs des thèmes qu'on sait chers à Ludovic de Burm, le passage de l'enfance à l'adolescence, le rapport à la famille, aux parents, le rapport à l'étranger aussi, l'incompréhension de la différence, les questions de transformation, de mutation. C'est un conte fantastique, Epiphania, un conte qui nous parle de notre rapport à l'autre, je le disais, de notre rapport à la Terre aussi, à notre planète, avec cette question sous-jacente de quelle société voulons-nous ? Et cela donc à travers les Epiphanians. Ce sont des êtres hybrides, mi-humains, mi-animaux, des mixed bodies, comme on les appelle dans l'album. Leur monstruosité, le dessin de Ludovic de Burm la rend vraiment fascinante. Alors on ne sait pas vraiment comment ils sont arrivés sur Terre, comment ils se sont retrouvés à sortir de Terre. Mais David, donc le personnage de cet album, va trouver, suite à une catastrophe naturelle, il va retrouver dans son jardin celui qu'il va appeler Koji et qui va immédiatement devenir son enfant. Sauf que les humains vont avoir beaucoup, beaucoup de mal à intégrer ces mixed bodies qui grandissent très très vite.
Maudits humains qui ne nous laissent même pas le temps de grandir.
Pas tout à fait, justement, parce qu'on ne sait pas s'il y a le chaos. C'est justement comment est-ce qu'on traite cet étranger qui arrive, qui sort de Terre, et qu'est-ce qu'on fait de tous ceux qui ne sont pas accueillis comme Koji par un humain comme David. Et d'ailleurs, Koji va lui-même découvrir d'autres Epiphanians qui n'ont pas eu, comme lui, la chance d'avoir une famille, qui ont connu les camps, la violence, cela par les humains. Donc, il va les suivre, ces autres Epiphanians. Et je ne vous en dis pas plus. Epiphania, c'est de Ludovic de Burm. C'est publié chez Casterman. C'est un conte percutant, surprenant, que je vous recommande donc vivement.
Et c'est noté.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr. Et on peut s'abonner au podcast de l'émission en passant par l'application Radio France.
Et on peut même retrouver la sélection de Sonia Deschamps, une sélection des bandes dessinées qui traitent de l'après-chaos, le post-apo, pour reprendre le terme générique. Un genre qui commence d'ailleurs à être primé, puisque un des albums a été primé.
Préférence Système qui a reçu...
Bienvenue de Noël Graphique.
Le grand prix de la CBD, donc des critiques, des journalistes et des critiques de bandes dessinées. Il y a fort à parier que ce ne sera pas le dernier prix que reçoit Hugo Bienvenue.
On verra ça à la fin du mois, c'est-à-dire pendant le Festival d'Angoulême. Merci d'être passé ce matin, Sonia Deschamps.
Avec joie.
C'est toujours un plaisir. Passez une bonne matinée sur France Culture. On se retrouve pas demain, non. On se retrouve lundi à la même heure.